petit peu une rentrée bizarre un peu cette année, hein, plein de changements. Nos ados sont mi-temps chez eux, mi-temps à l'école, on ne sait plus finalement, hein, on ne sait plus tant. Donc, ce matin, peut-être, j'aimerais ça commencer, puis la semaine passée, je n'ai pas fait en passant, la semaine passée, pour eux. Donc, je veux juste dire, on n'a pas changé de style pour le moment. Ça va être pas encore commencer les classes économiquement. On va essayer de rester autour d'une demi-heure, 35 minutes maximum pour le message, puis imager. Donc, cette semaine, j'ai pensé de... Là, tu peux envoyer le PowerPoint. Quelques images, justement, en rapport avec notre retour à l'école. C'est une image que j'avais trouvée un petit peu... cocasse pour cette semaine, hein? Donc là, la jeune dit, hein, aujourd'hui, les cours, la récréation, le dîner, hein, avaient lieu dans la classe. On n'avait pas le droit d'en sortir. Ouais, on parle-tu de déconfinement, là? Non, mais c'est bien du déconfinement, n'est-ce pas? Donc, hein, le professeur, et surtout, n'oubliez pas le pluriel, hein? Je pense que depuis 6 mois, ce que les enfants ont entendu, c'est pas le pluriel. Donc, on désire le pluriel, madame. Effectivement, je pense que dans la vie de plusieurs de nos enfants, il y a des mots qui vont être disparus à cause des derniers mots. Et évidemment, plus nos ados, hein, font du travail à la maison. Donc, faire attention peut-être à ce qui se passe dans les ordinateurs, parce que le jeune dit, hein, je suis en plein cours, hein, bon, oui, mais il est en train de jouer, faire des combats avec ses amis, là. Donc, peut-être surveiller un petit peu ce qui se passe, mais c'est la nouvelle réalité. C'est la nouvelle réalité que les familles vont avoir à vivre dans les prochains mois. On espère que ce ne sera pas les prochaines années. Ça, c'est vraiment... les gens commencent à être tannés, là. Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Une fois, c'est un homme d'affaires. Un homme qui avait beaucoup de propriétés, il y avait des édifices. Et un jour, il sortait des édifices en vente. Et c'était des édifices abandonnés. Et il avait écrit, entre les termes en français, squatté par des personnes qui avaient vu qu'on fait du saccage, des petits intervenants, passe en respectant les exigences de la santé publique. Donc, on va avoir ce privilège de reprendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. Donc, je voudrais demander à Suzy de venir m'aider puis venir nous faire la lecture de Romains au chapitre 11 avec nous autres. Donc, tournez dans Romains, chapitre 11, on va le lire ensemble.
Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé? Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures fermement dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Merci beaucoup, Suzy. On va juste se courber devant le Seigneur. On a tout un texte à regarder ensemble. Allez épuiser, Seigneur, autant qu'on le veut. Seigneur Dieu, librement, gloire à ton nom. Et Seigneur, certainement, ce qu'on veut, c'est que cette parole ne soit pas juste de la théorie, de la théologie, mais Seigneur, que ça puisse faire une différence dans chacune de nos vies. Et c'est ce que je te demande encore ce matin, à travers ce passage. Et utilise-moi dans ta grâce et prépare nos cœurs à savoir ce que toi-même tu veux nous dire. En Jésus. Amen. Donc, oui. Oui, je l'ai peut-être éteinte tantôt. Oui, c'est beau. Je vais le rééteindre. De toute façon, je vais devoir rester ici. Je ne peux pas me promener. Si je veux garder le plus de 2 mètres de distance, excusez-nous. Hein? OK. Donc, revenons à notre passage Romains 11. Donc, dans les chapitres 9 et 10, hein, après tout ce que Paul venait de dire à propos du peuple d'Israël, là, il juge bon ici de faire un nouveau appel, vous rappelez à son ami imaginaire, son Wilson, hein, qui pose la question, « Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Après tout ce qu'on vient de voir ensemble, donc il pose la question et sa réponse est on ne peut plus clair. Donc, hein, il dit « loin de là ». Dépendamment des traductions, d'autres traductions vont dire « certes non ». D'autres traductions, « certainement pas ». Et Nouvelle Bible seconde, jamais de la vie. Jamais de la vie. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il commence d'abord par se donner lui-même en exemple. Hein? Dieu n'a pas rejeté Israël puisqu'il a jugé bon de me sauver moi. Moi qui suis un juif jusqu'à la pointe des orteils. Hein? Et on sait, conformément au texte de Philippiens 3, que Paul énumère un petit peu qu'est-ce qui était par rapport au judaïsme. Donc, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, ce qu'il dit, c'est, regardez, Dieu n'a pas rejeté Israël, puisqu'il a jugé bon de m'appeler, moi, qui suis un juif, un vrai juif, et que Christ m'a appelé à le suivre. Rappelons-nous aussi que les 11 apôtres, évidemment, Judas n'était plus là, mais les 11 apôtres étaient aussi des Juifs. Donc, Dieu sauvait des personnes aussi parmi les Juifs. Donc, Dieu n'a pas rejeté le peuple d'Israël en bloc. Il apporte un deuxième argument Et il cite la réponse que Dieu a faite à Élie. Élie, qui un jour se sentait bien seul, sentait qu'il était le seul qui était resté fidèle à Dieu parmi tout le peuple d'Israël. Et Dieu lui répond, je me suis, au chapitre 11, verset 4, là, il dit, je me suis réservé 7000 hommes. Donc, c'est ce que la réponse que Dieu fait. Donc, malgré le fait qu'Israël avait rejeté pour la plupart Dieu, Dieu dit, non, je me suis gardé 7000 avec Élie, ça faisait 7000 hommes. 7000 hommes, hein, qui n'ont pas fléchi le genou devant les idoles, devant Baal, et qui me sont restés fidèles. Donc, à cause de ça, Paul nous dit, non, Dieu n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des branches, des Juifs qui ont été retranchés, mais Dieu s'est gardé quand même des personnes parmi les Juifs qui eux, se sont convertis au Seigneur, qui n'ont pas rejeté le Seigneur et qui se sont convertis. Alors, Paul ramène ici toute l'élection de la grâce qui vient de nous expliquer dans les 10 premiers chapitres de sa lettre. Et il nous dit que finalement, il y a une partie des Juifs, il y en a parmi les Juifs qui n'ont pas rejeté Christ et qui sont passés par cette élection de la grâce. Vous vous rappelez ce que ça dit, l'élection de la grâce? C'était le chapitre qui précède. Donc, Romains 10, 13, qui nous disait « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, c'est toute une grâce, là. Ça ne dit pas « Fais ceci, fais cela, respecte les 10 commandements, respecte toutes les ordonnances de la loi. Quiconque invoque le nom du Seigneur va être sauvé. » Quiconque, c'est des Juifs, c'est des pas-Juifs, c'est tout le monde. Quiconque, c'est tout le monde, c'est moi, c'est toi. Donc, il y a des Juifs qui sont passés par cette élection de la grâce, eux aussi. Et à cause de ça, comme le disait le verset qui précédait celui-là, le verset 12, c'est que tout le monde, juifs, non-juifs, sont sur le même pied, le même point de départ. Tout le monde a juste à invoquer le nom du Seigneur et sont sauvés. Peu importe leur origine, peu importe leur arrière-plan, invoque le nom du Seigneur et tu vas être sauvé. Donc, on est tous sur le même pied. Donc, Dieu a comme ouvert la porte pour le salut des non-juifs aussi. Donc, il n'y a pas rejeté en bloc Israël, mais il les a mis tous sur le même pied, et il y a des gens parmi Israël qui se convertissent, ce qui est plus l'exception, selon ce qu'on voit, mais il y a aussi des païens qui se convertissent, puis il y en a plusieurs qui ne se convertiront pas. Okay? Donc, on parle ici... Il y a un certain jugement qui est global pour le peuple d'Israël, mais non pas individuel, parce qu'on voit que Dieu appelle encore des Juifs à se convertir. Et, bon, comme on l'a vu notre étude, la chute d'Israël a ouvert les portes de l'Évangile, et Paul le rappelle ici, au verset 14 du texte, puis le but de ça, il dit, enfin, si c'est possible, ça peut s'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Donc, Dieu a permis que les païens qui ne cherchaient pas Dieu, qu'eux se convertissent en plus grand nombre pour, justement, que les Juifs deviennent jaloux, puis qu'eux aussi veulent pouvoir se convertir de la même façon. Donc, son désir, c'est qu'à travers ça, les gens de sa race, les Juifs, puissent aussi se convertir. Il mentionne, il dit, si leur rejet, parce que quand ils ont rejeté Christ, ça nous a ouvert la porte à nous, donc toute une bénédiction qu'on a eue à cause de leur rejet, mais il dit, si leur rejet est une si grande bénédiction pour nous, qu'est-ce que va être leur retour lorsqu'ils vont se convertir? Donc, il parle ici d'une vie d'entre les morts, hein? Donc, le passage de la mort à la vie. C'est un peu comme si le peuple d'Israël, hein, ça va être un retour à la vie pour eux lorsqu'ils vont se convertir. Ça va être, je sais qu'il y a eu bien de l'encre qui a coulé sur ce texte-là, mais on peut se mettre d'accord que ça va être toute une fête lorsque le peuple d'Israël va se convertir en grand nombre. Ça va être toute une fête. On pourrait interpréter comme ça le passage, une vie d'entre les morts, passage de la mort à la vie, ce serait un petit peu, juste pour ne pas aller trop dans la doctrine, mettons-nous d'accord, ça va être une fête, puis ça va être comme s'ils reviennent à la vie. Et là, Paul introduit une notion imagée, il parle de la greffe d'olivier. Vous savez-vous, c'est quoi une greffe? Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Moi, je me suis renseigné, étant donné que c'était notre terme. Et ce matin, je suis allé sur mon terrain et j'ai cueilli deux verres. Okay. C'est toutes les deux des pommiers. OK? J'ai celui-là, puis j'ai celui-là. On est d'accord, quand on regarde ça, on se dit, oh, là, c'est pas le même fruit, là. C'est pas la même chose. C'est pas le même arbre, évidemment. Ça, c'est un pommetier décoratif. Donc, ils vont venir rouges, vifs. Ils sont en train de changer de couleur. Puis, il y en a plein de, dans mon arbre. C'est très coloré. Il y a beaucoup de pommes, mais ils sont très petites. Et ils ne sont pas vraiment bonnes. Quand on les mange, ils sont amères. On préfère de la gelée avec, mais c'est pas idéal. Mon autre pommier, c'est des petites pommettes. Bon, elles ne sont pas grosses. OK? C'est un pommier qui est à sauvage et qui ont conservé lorsqu'on construit la maison. Et cette année, on a eu beaucoup de pommes dedans. Beaucoup de petites pommettes. Et sont mangeables, sont très bonnes, mais ne sont pas très grosses. Donc, quand on fait une greffe, c'est qu'on prendrait, exemple, cet arbre-là et on viendrait greffer une branche d'un pommetier décoratif, exemple. Et le résultat va être habituellement que le pommetier va prendre les propriétés de l'arbre sur lequel il a été greffé. Donc, lui, sa caractéristique, c'est qu'il produisait beaucoup de fruits. Donc, il est possible qu'il continue à produire beaucoup de fruits, mais peut-être qu'il va produire beaucoup de pommes comestibles si je le greffe sur cet arbre-là. Et ça, c'est le principe de la greffe. Je sais qu'aujourd'hui, ceux qui font des greffes font le contraire, là. Ils vont greffer une bonne branche sur un porte-greffe qu'ils appellent, qui souvent ne va même pas porter de fruits, là. Mais à l'époque, c'était la façon. On greffait la branche qui n'était pas bonne sur un bon arbre et la branche commençait à donner du bon fruit. Je vais essayer de le mettre là. Donc, c'est l'illustration que Paul prend ici pour nous faire comprendre. Mais revenons à notre histoire du début. Vous vous rappelez? L'acheteur voulait acheter la propriété, tout raser, repartir à zéro, le terrain dans le fond. Mais quand on se convertit, c'est un peu ça que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut rebâtir sur une nouvelle base. On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et comme on l'a chanté tout à l'heure, hein, ce qui m'était cher, hein, aujourd'hui ça n'a plus de valeur pour moi. Ça l'a changé. Dieu a complètement changé ce que j'affectionnais avant. Quand je me convertis, Dieu m'a fait m'affectionner de d'autres choses. Donc, si, puis c'est ce que je m'apprête à faire avec mon pommier ici, qui donne des pommes comestibles, lui, je vais juste le tailler pour produire des pommes plus grosses, pour qu'il y ait plus d'énergie qui se rende dans les pommes, plus de sève, et qui produisent des fruits meilleurs, ça, je peux juste le tailler. Mais pour que celui-là porte des bons fruits, j'aurais beau le tailler, mais il ne produira jamais des pommes plus grosses, plus comestibles. Donc, je vais devoir le greffer à ce moment-là. Donc, Dieu a pour nous des plans bien différents, des plans qu'on avait avant de se convertir. On parle pas des plans de pommes ici, là, mais des plans de vie. Donc, Dieu avait des plans bien différents des nôtres. Il veut accomplir des choses qui sont contraires même à notre nature. Comme la nature de ce pommier-là n'est pas de produire des pommes comestibles, mais Dieu a le plan de faire produire des pommes bien différentes à cet arbre-là. C'est un petit peu l'illustration que Paul prend ici. Donc, Dieu ne veut pas seulement nous élaguer, nous tailler, il veut nous arracher de notre ancienne nature pour nous faire devenir des êtres nouveaux, selon sa propre nature à lui. Et ça, c'est vraiment pas naturel. On va revenir sur cette belle illustration dans notre thème, justement, qu'on va regarder la semaine prochaine ensemble. Paul rappelle ensuite, au verset 21 et 22, les deux aspects opposés de Dieu. Donc, Dieu est terriblement bon, infiniment bon, hein, mais en même temps, Dieu est sévère. Et ces deux aspects qui, selon nous, souvent, on dit que ce n'est pas compatible, mais ces deux aspects-là se retrouvent en Dieu. Dieu a été tellement bon envers nous, de ce qui a ouvert la porte de l'Évangile, de cette grâce, de ce qu'on peut, aujourd'hui, se convertir au Seigneur, nous qui, comme païens, ne recherchait pas du tout Dieu. C'est tellement bon d'un côté, mais en même temps, Dieu est sévère. Dieu, avec vers son Père, hein, l'a retranché parce qu'il n'a pas voulu recevoir le salut. Et ces deux aspects-là sont parfaitement équilibrés dans Dieu. Ça me faisait rappeler... une petite phrase, hein? Il dit « Persévère quand tu as un père sévère. » Persévère quand tu as un père sévère, c'est juste un petit jeu de mots en passant. Mais oui, on doit se rappeler de ce que ces deux aspects-là sont en Dieu. Mais ce n'est pas la notion que les gens de notre siècle veulent avoir de Dieu. Les gens aujourd'hui aiment bien se faire l'image du bon petit Jésus. Hein? Le bon petit Jésus, tout gentil, hein? C'est pas bien même menaçant pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec un bon petit Jésus. Mais notre Dieu, là, c'est le Dieu créateur de l'univers. C'est le même Dieu qui a exterminé des nations comme Sodome et Gomorre. C'est le même Dieu. C'est un Dieu terrible qu'on adore. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas réaliser qui est vraiment notre Dieu, qui est vraiment celui qu'on adore, le puissant Créateur. On doit regarder l'illustration ici de toute l'histoire de la greffe et tout ça dans le contexte des nations. Donc, c'est la nation d'Israël que les branches ont été enlevées et non pas des individus, parce qu'on l'a vu, il y a des individus qui peuvent se convertir quand même. Et c'est au niveau de la nation des païens, finalement, qui ont été greffés et non pas des individus. C'est l'accès a été donné à ceux qui ne sont pas juifs, donc tous les païens, parce que sinon, ça introduirait une possibilité de perdre notre salut. Sinon, vous allez être retranchés, vous autres aussi. Mais l'idée, c'est toujours, regardons la possibilité que les païens se convertissent. Si les païens commencent à voir, qui entendent l'Évangile réagissent de la même façon que les juifs, Dieu pourrait carrément couper ça, puis revenir à un autre plan. Et donc, prenons-le du point de vue global et non pas individuel, parce que même si Dieu faisait ça, un individu pourrait quand même se convertir comme c'est arrivé avec Israël. Donc, il n'est pas en train de nous enseigner ici qu'on peut perdre notre salut, juste que l'attitude de la nation doit tenir compte que notre Dieu est sévère et peut couper l'accès à l'Évangile pour une nation, et ce qu'on voyait, c'est qu'ils ont endurci leur cœur, qu'ils ont empêché de comprendre, finalement. Et, au verset 18, 20 et 25, c'est pour ça que Paul met une mise en garde. Hein? Il dit, on pourrait s'enorgueillir du fait que nous, on peut être sauvés, qu'on a été hantés, qu'on a été greffés à la place des Juifs. Il dit, ne glorifie pas aux dépens de ses branches, ne t'abandonne pas à l'orgueil, hein, afin que nous ne nous regardions point comme sages, trois versets. Donc, il nous met en garde. On peut se réjouir de ce que Dieu nous a ouvert les portes de l'Évangile, mais non pas nous en enorgueillir. Non pas faire comme le peuple d'Israël faisait, puis nous, je te loue de ce que je ne suis pas, hein, comme les autres hommes, hein, qui sont ravisseurs, idolâtres, même comme ce publicain. Dieu ne veut pas qu'on s'abandonne à l'orgueil. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit reconnaissant. Qu'on soit reconnaissant pour ce privilège, cette élection de la grâce à laquelle on a accès aujourd'hui. Et Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu va à nouveau les appeler à se repentir. Et le verset 12 nous laisse croire qu'un jour, ils vont se convertir en grand nombre. Un jour, les Juifs vont recommencer à revenir à Dieu, mais en passant cette fois par le sang de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ. C'est là qu'on va, ça va être la fête, évidemment. Comme Dieu est sage, comme son plan est extraordinaire, et c'est exactement ce que Paul conclut dans son chapitre. Il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. » Comment Dieu est extraordinaire? Comment on aurait pu même imaginer un tel plan? Mais Dieu avait tout déjà planifié ça, Dieu avait tout orchestré ça, pour qu'on arrive aujourd'hui à cet accès si extraordinaire au salut. Comme notre Dieu est sage. Hein? Puis qui a montré ça? Non, c'est en lui. On n'a pas eu besoin de lui enseigner à être comme ça, là, Dieu. C'est en lui déjà. C'est dans sa nature d'être comme ça. Donc, frères et sœurs, il ne nous faut pas négliger un si grand salut, un si grand privilège de pouvoir être greffé sur l'olivier franc. Nous qui, dans notre nature, c'était pas ça qu'on produisait. C'était pas ce genre de fruit qu'on produisait. C'est complètement contraire à notre nature. Mais Dieu veut nous donner le privilège de porter maintenant du fruit pour lui. C'est un petit peu notre introduction. Mais ça va être plus la semaine prochaine, mais pour notre thème qui s'en vient. Donc, soyez là la semaine prochaine. Moi, j'ai vraiment hâte d'embarquer dans cette série qui va durer probablement l'automne et une partie de l'hiver, mais dont le reste de l'épître va pouvoir faire partie. Vous allez voir, c'est vraiment dans la même idée que l'épître, mais on va sortir aussi de notre texte, on va regarder des thèmes plus ensemble. On va prier. Eh bien oui, Seigneur, merci encore pour tes écritures. Merci de ce privilège que tu nous as fait. Seigneur, nous qui étions d'une nation qui ne te cherchait pas, qui ne voulait même pas entendre parler de toi, mais que tu nous as accordé la grâce de mourir pour nous aussi, Seigneur, sur cette croix. Merci de ce que tu nous as ouvert la porte à l'Évangile, de ce qu'un jour, on a eu le privilège de se convertir à toi. Merci de ton esprit qui appelle encore aujourd'hui, encore en 2020, qui attire les personnes à toi. Certainement, on veut te demander que ton royaume puisse s'étendre, Seigneur, sur notre société, sur nos contemporains. Continue de sauver encore parmi les païens aussi, Seigneur, parmi notre peuple, notre nation. En particulier, Seigneur, on veut te remettre les Franco-Canadiens entre tes mains. Ils ont besoin de toi et on te supplie de venir à leur secours, d'avoir pitié d'eux, Seigneur, et de faire un travail par ton esprit et dans ta grâce. Accorde-nous le privilège de pouvoir se joindre à ton travail. Et Seigneur, on veut te dire combien on est reconnaissant. On est reconnaissant de pouvoir avoir accès à un si grand salut, que le voile a été ôté, qu'on puisse comprendre tes Écritures et qu'on ait le privilège de les mettre en pratique. C'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.